décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 22, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire.
Petite revue de presse cette semaine.
Ah oui, toute mini rikiki. Alors, le Mag IT, l'Union européenne veut pousser ses entreprises vers l'open data de Alain Clapeau.
Donc, l'open data, ça concerne généralement les institutions, les États. Et l'open data, c'est d'accéder à plein d'informations qui sont générées par les administrations. Eh bien là, on voudrait que ce ne soit pas que les administrations, mais aussi les entreprises. Et c'est la Commission européenne qui pousse dans ce sens-là. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça donnera à terme, mais c'est une initiative qui paraît intéressante.
En tout cas, ils sont sur le bon chemin. Politis.fr, enfin, entre parenthèses, le libre de Erwan Manak.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que Politis.fr, ils ont fait une petite série d'articles de Erwan Manak. Donc, je ne sais pas d'où cela vient, mais ils présentent les concepts du logiciel libre, mais aussi les évolutions, la révolution de l'open source et le fait d'avoir du libre partout. Donc, il y a plusieurs articles. Allez, jetez un oeil, c'est rigolo.
Je me demande si c'est de la famille de Jean-Marc Manak.
C'est peut-être son petit frère.
Siècle digital, les développeurs chinois craignent de perdre l'accès à GitHub de Mathias Lapierre.
Donc, c'est la suite de ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et la Chine. Trump, qui a lancé une sorte de liste noire des entreprises avec lesquelles les sociétés américaines peuvent commercer. Et Huawei
pas
a été
commercé,
poussé.
D'ailleurs.
Et justement, oui, t'as raison. Et donc, ça a fait beaucoup, beaucoup parler. Il y a plein de commentaires sur le sujet, notamment parce que Android est un logiciel libre. Et là, eh bien, il est question que GitHub, une plateforme où on fait beaucoup, beaucoup de logiciels libres, soit peut-être rendu interdite aux Chinois.
Et racheté par Microsoft.
Alors, c'est une entreprise, alors c'est ça qui est énervant, hein, c'est que GitHub n'est pas lui-même un logiciel libre et effectivement a été racheté par Microsoft, qui en fait un peu du open washing, on va dire, que ça les aide à montrer patte blanche dans la communauté, même si
voilà.
On s'inquiète.
Et
toujours.
Depuis la semaine dernière, il y a eu de nouvelles actions pour pourrir les Chinois et la Chine a annoncé des mesures de rétorsion, là, ils sont en train de faire leur plan de bataille.
Notamment sur les terres rares, hein, où ils ont quasiment un monopole, c'est donc des substances nécessaires pour toutes les nouvelles technologies actuelles.
France Culture, Silicon Valley, la technologie au service d'une idéologie, de Olivia Gisbert.
Donc j'ai pas écouté, c'est une émission de radio, j'ai regardé un petit peu la retranscription initiale. Donc c'est intéressant parce qu'on réaborde la culture et ce qui tourne autour de nos technologies actuelles, et notamment leurs sources. Donc on sait que la Silicon Valley, ça vient en grande partie d'universitaires et de gens barbus, des hippies, et Richard Stallman en est un bon exemple. Alors le sujet de la semaine.
Alors je voulais revenir sur une nouvelle que j'ai lue, qui n'a pas fait beaucoup, beaucoup de bruit, mais que j'ai trouvé assez intéressante. C'est une sorte de tribune écrite par une cadre haut placée de Microsoft qui s'appelle Julie Brill, qui est en gros dans le domaine juridique essentiellement.
Oui, et qui est une ancienne commissaire à la FTC, Commission fédérale du commerce.
Elle pantoufle, hein, y a pas que chez nous que c'est un sport.
C'est un peu partout.
Voilà, des élites, on passe un cours
pantoufle.
Privé. Pantoufle. Oui, pantoufler, c'est quand tu passes de la fonction publique à la fonction privée inversement. Et donc après, on se demande où va l'intérêt des gens. Mais voilà, cette Julie Brill,
américaine
hein, de Microsoft, parle du RGPD. RGPD, donc
le règlement général de la protection des données.
Voilà, qui est un dispositif juridique européen.
En place depuis une année.
On en a pas mal parlé dans le podcast et ailleurs. C'est beaucoup de contraintes. Les principes généraux...
on peut les rappeler.
Voilà, hein, c'est quoi ? C'est déjà d'informer, savoir ce qu'on fait avec les données.
Les données privées, les données individuelles.
Voilà.
Informer ses clients.
Voilà, à quoi elles peuvent servir. Donc, il faut que ce soit très explicite. Et il faut qu'on puisse choisir simplement d'autoriser cette exploitation ou pas. Donc, certaines données sont nécessaires au fonctionnement du service, d'autres vont être purement commerciales, publicitaires, etc. Et donc, on doit avoir ce choix-là. Et derrière, il y a un arsenal pour taper qui est fait de pouvoir mettre des amendes faramineuses.
Oh, faramineuses quoi ? 10 000 dollars par ci, 100 000 dollars par là ?
Et non, ça c'était avant justement cette loi-là.
Non, là on peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires fait en Europe.
Alors, mondial.
Mondial, mondial. Donc c'est considérable, notamment pour les GAFA qui sont touchés de plein fouet par ce genre de règles.
Voilà. Et le chiffre d'affaires hein, n'est pas le bénéfice, c'est-à-dire c'est tout l'argent qu'on gagne avant impôt, etc., etc. Donc ça fait des sommes vraiment colossales. Ça a commencé un petit peu. Hein, Donc Google s'est déjà pris une amende en Europe par un pays, mais chaque pays peut recommencer. C'était juste sur un point précis, notamment sur le fait que c'était imbitable et qu'on n'arrivait pas à savoir ce qui était utilisé, pas utilisé, qu'il fallait dans plein de pages difficiles à trouver et que du coup, ils ne respectaient pas le RGPD.
Donc ça reste un truc hyper ambitieux. qui nous a beaucoup fait parler, le RGPD, quand il est arrivé. Alors, c'est-à-dire que quand il est rentré en fonction, je crois que c'est plutôt que les amendes ont été activées depuis un an, parce que le RGPD lui-même existait depuis plus longtemps.
C'était pas 25 mai que c'était rentré en fonction?
Quelque chose comme ça. Et on avait beaucoup jasé sur le sujet, parce que c'était quelque chose de hyper novateur et très en faveur des citoyens européens.
Oui, mais beaucoup trop compliqué, c'est impossible à mettre en œuvre, on s'en sortira jamais, mon pauvre monsieur. et ce qui n'était pas complètement fou, hein, puisqu'on avait pointé le fait que c'était à partir d'un certain niveau de complexité, seules les structures suffisamment importantes pour le faire pourraient le mettre en œuvre. Donc Julie Bril, cette responsable de Microsoft, revient là-dessus et, aux surprises, a un avis plutôt positif, voire très positif sur le RGPD.
Comment ça? Aux États-Unis, ils veulent protéger les données des citoyens?
C'est de la com.
Alors, son argument, c'est de dire, bon, d'une part, il existe des lois aux États-Unis, mais ce sont des lois de chaque État, notamment en Californie.
Ils sont plutôt progressistes, de ce point de vue-là.
Et en fait, ce qu'elle constate, c'est que, elle fait un peu de passage de pommade en disant, oui, le RGPD, il nous a permis de vraiment voir les problèmes sous l'angle de la protection des données des gens, c'est vachement bien, etc. Ça a vraiment changé les pratiques et la façon de voir.
Mais là, effectivement, il faut faire confiance dans son discours, hein, t'as raison, Maya.
C'était de la com.
Et elle dit, mais avant, en gros, il y avait de l'argent à faire avec les données personnel et c'était la course, tout le monde voulait le faire et donc du coup, forcément on allait le faire et donc la vie privée des gens n'était pas importante, en tout cas moins importante que le fait de faire des bénéfices et puis si on voulait pas se retrouver en dernière position comme la dernière roue du carrosse, fallait y aller quoi, on n'avait pas le choix. Alors que s'il y a de la réglementation, on fixe la limite quelque part et donc on n'est pas obligé de partir à cette course du n'importe quoi.
Ça a souvent été une comparaison bizarre, mais souvent on disait que les données personnelles c'était le pétrole du 21e siècle et que c'était grâce à ce pétrole qu'on pouvait faire fonctionner l'économie de l'information. Donc les entreprises comme Google par exemple sont connues pour stocker beaucoup de données personnelles et ça leur permet de ensuite cibler les publicités. Ce ciblage, la connaissance des consommateurs a... supposément, en tout cas, c'est ce qui est mis en avant, une valeur gigantesque.
Alors effectivement, et depuis un an, le RGPD est arrivé, mais il s'est passé plein d'autres choses, notamment du côté de Facebook, qui s'est illustré en nous faisant un festival.
Attends, il s'est encore excusé.
Alors il s'est excusé un paquet de fois, mais je crois que maintenant il s'excuse même plus, il n'a plus le temps.
Oh, il a un générateur d'excuses, il y a plein de générateurs qui tournent sur Internet.
Voilà, il y a des gens qui font la liste des excuses de Zuckerberg.
Les sénateurs américains ont fait ça, en session de questions. Ils ont listé un petit peu ces différentes excuses au cours des années, ça doit être une 15 ou une vingtaine d'excuses sur les 10 dernières années.
Voilà, donc il y a le scandale Cambridge Analytica dont on a pas mal parlé, qui a été l'utilisation. Oui, mais ça a mis 2 ans à émerger, donc en gros, ils ont caché le truc. Donc à partir des données Facebook, ils ont été exploités à des fins politiques avec le soupçon que les Russes soient derrière. Mais depuis plusieurs mois, toutes les semaines, on a des scandales avec des trucs où on apprend que des partenaires de Facebook notamment avaient des données de millions de gens, de dizaines, voire de centaines de millions de gens qui se promenaient dans la nature, on pouvait y accéder comme ça parce que c'était sur un serveur non sécurisé, des mots de passe non sécurisés, et qu'en gros, il y a des pléthores de partenaires de Facebook qui font n'importe quoi avec les données et que ça circule dans tous les sens et que justement tout ce que le RGPD est censé encadrer, ça a été un festival de n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça pèse lourd sur Facebook, sa réputation est en train de se casser la gueule sérieusement.
Considéré comme une des boîtes les moins bien perçues par les Américains aujourd'hui.
Voilà, peut-être, mais au niveau mondial, c'est quand même une des boîtes qui a le plus de personnes qui vont dessus et j'ai pas l'impression que ça diminue. Hein.
Alors, ça baisse et après les stats sont difficiles à connaître puisque c'est Facebook lui-même qui les fait. Un des anciens fondateurs de Facebook qui a dit qu'il faut éclater Facebook, les détruire en produits en plusieurs entreprises.
Il a aussi dit qu'il faut arrêter d'y aller. Hein.
Voilà, alors il y a d'autres patrons qui l'ont fait. Mais voilà, en tout cas, je pense que les autres GAFAM se disent que, à force de jouer avec les données personnelles, ce genre de petits problèmes pourraient leur tomber dessus.
Ils sont très contents que ça tombe sur Facebook et pas sur eux, surtout.
Tout à fait.
Oui. Alors, on peut comparer avec Apple, par exemple. Apple se déclare comme étant des champions de la vie privée et ils indiquent que eux, ils ne récupèrent pas d'informations sur leurs utilisateurs ou peu, le minimum nécessaire. Ils se mettent en avant comme étant, brillants, protecteurs, vraiment des bons acteurs, notamment parce que ça leur permet de se mettre en avant par rapport à leurs concurrents directs.
Effectivement, et ils disent que comme ils vendent du matériel.
Alors, est-ce que c'est le cas?
Ils peuvent enfermer les gens dans leur matériel avec leurs produits, leurs logiciels et les prix qu'ils veulent imposer aux autres.
Tout
c'est bien,
Oui, mais du coup, les données personnelles sont censées être en sécurité, sauf que je suis tombé sur un article la semaine dernière avec des chercheurs qui ont étudié un iPhone et qui sont aperçus que peut-être que l'OS d'Apple ne surveille pas les gens, mais que les logiciels du store, eux, par contre, ne se privent pas et qu'il y a des milliers de données qui partent tout le temps.
C'est pas de chance.
Voilà, donc Apple se vante d'avoir un écosystème bien contrôlé où c'est eux les chefs et où il y a des bonnes pratiques et on déconne pas. Donc les données personnelles des gens, ils ne les protègent pas, même s'ils les pondent pas eux-mêmes. Donc Google, évidemment, qui ont pris une amende, sont également dans la ligne de mire. Donc on imagine bien que Microsoft, en faisant cette déclaration-là, finalement, il a tout intérêt à faire monter les enchères sur la donné...
C'est les bons élèves.
Mais oui, en fait, eux, ils avaient du retard sur l'exploitation des données personnelles. Avec Windows 10, ils ont essayé de rattraper leur retard en espionnant les gens à max. Puis ils se disent, mais hey, en fait, on peut peut-être jouer l'inverse et utiliser notre retard comme un avantage.
Je pense surtout que pour l'instant, ceux qui veulent les hacker s'intéressent aux grandes plateformes où il y a le plus de monde, mais que ça va pas tarder. Si Microsoft continue, ils se feront hacker eux aussi. On trouvera des failles, on trouvera des sites non sécurisés et point barre. Oui. Je vois pas pourquoi ils seraient différents que les autres.
Il y a une différence entre se faire hacker et se faire pirater et le faire parce qu'on a été super nul et qu'il y avait des grosses failles de sécurité comme ça s'est fait chez Sony beaucoup, par exemple. Et le fait de donner les données à n'importe qui et d'en avoir juste rien à foutre comme on fait chez Facebook. Tu vois.
Disons que Facebook, c'était son business, ou ça le reste probablement, de partager des données de leurs milliards d'utilisateurs. Alors que Microsoft, ils avaient plein d'autres formes de business. Comme ils étaient en retard, eux, ils comptent plus aujourd'hui sur l'informatique en nuage, hein, par exemple. Ça a l'air d'être un petit peu leur vache à lait. En tout cas, ce qu'ils ciblent comme leur vache à lait. Et ils gagnaient beaucoup d'argent parce qu'ils vendaient la suite Office. Ils vendaient le système d'exploitation Windows et ils vendaient les Xbox. C'est ça qui leur gagnait de l'argent.
Sans parler des rentes qu'ils ont sur des brevets logiciels qui sont utilisés voilà. Par plein d'autres bien gens
vu,
aussi.
Bien vu, effectivement. Mais ça, ces brevets logiciels, autant on les déteste pour d'autres raisons, parce que c'est vraiment des blocages sur les idées, sur la créativité, mais ça ne touche pas aux données personnelles. Donc il y a un côté un petit peu vache, c'est-à-dire qu'ils sont pas cool sur certains sujets, mais bien, ils sont en retard sur d'autres. Ça leur permet de jouer les gens valeureux.
Voilà, donc à aucun moment on pense qu'ils sont absolument vertueux. D'ailleurs, par rapport à toute cette évolution législative qu'ils demandent, ils demandent une loi fédérale, ils se disent oui, mais alors le problème du RGPD, c'est que c'est trop compliqué. Les gens, ils n'utilisent pas ces trucs, ils ne font pas l'effort d'aller décocher les éléments, ce qui est probablement vrai. Et donc du coup, c'est nous qui devrions le gérer pour eux. Donnez-nous un cadre législatif et nous, on va le gérer
Faites
pour tout le monde.
Confiance.
Faites-nous confiance.
Et donc, ils proposent un tableau de bord, Microsoft, pour regarder toutes les données qui sont collectées et surveiller un petit peu ce qui en est fait. Et ils se vantent que ce tableau de bord a été utilisé par des dizaines de millions de leurs clients et utilisateurs pour voir un petit peu comment tout ça est géré.
Moi, ce que je trouve quand même positif dans cette affaire-là, c'est qu'on s'aperçoit que faire du bruit, faire de la politique au sens général, hein, pas uniquement des trucs d'élection, mettre ces problématiques de données personnelles en avant, leur mettre le nez dans le caca en dépit de leur grosse puissance et leur force, etc., ça a quand même des effets. Alors, on est très loin du monde dont on rêverait, hein, on est en train de jouer des gros contre des gros, enfin, ils jouent tout seuls d'ailleurs, mais en tout cas, on voit que ça a quand même une influence et que donc, on a quand même intérêt à se bouger les fesses. En se résignant, on est sûr d'échouer en tout cas. Et que là, bah, on arrive quand même, malgré le CCGE, à aller un peu dans le bon sens, on dirait. Et donc, je trouve ça plutôt pas mal. Mike, t'es pas convaincu?
Non, je trouve ça très utopiste. Et venant de toi, je suis étonnée. Bah, Luc, c'est le pessimiste de notre groupe habituellement. Je veux dire, il relève tous les problèmes, tout ce qui va pas. Et là, tout d'un coup, non, mais on va peut-être aller vers un monde meilleur. Non, pour moi, toutes les lois qui risquent de passer, soi-disant, pour le contrôle et ainsi de suite, ça va faire que empirer les choses. Mais ça sera toujours pour le bien des utilisateurs et leur protection des données, bien sûr. Ça me rappelle la loi surveillance.
En tout cas, il y a quelque chose de positif au niveau européen. Les politiques se sont bougées. Ils ont peut-être fait quelque chose pour l'apparence, la pression qu'on contrôle notre vie privée. Ils ont peut-être fait ça aussi parce que les GAFAM ne sont pas européens. Donc l'Europe peut se permettre d'être vertueuse parce qu'elle rejette un petit peu tout cela sur des entreprises multinationales qui ne sont pas basées chez nous. Il y a quand même un peu de positif. Donc certes, dans un monde très noir, beaucoup de soucis, là-dedans, il y a une petite lueur.
Oui, Manu est un vrai optimiste.
Je suis désolée, Manu. Vous êtes mignons ce soir, tous les deux, là.
Ok, bon, et on va passer la semaine avec notre optimisme. On va te laisser
à mon réalisme.
Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. On verra si on est toujours optimiste.
À la semaine
Salut
prochaine.